Europe 1.
Il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec. Et la deuxième, c'est le succès.
19h, 20h.
La voix est livre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on écrit pour être connu. C'est autre chose. C'est pour parler, certainement. C'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Caro.
Bonsoir à tous et bienvenue dans La Voix et Livre. Cette semaine, un prix Goncourt. Encore un visite de bibliothèque. Nous partons chez la réalisatrice et comédienne Nicole Garcia. Et puis à la fin de l'émission, évidemment, les chroniqueurs de l'émission nous rejoignent pour la bande dessinée et la littérature jeunesse. Mais d'abord, donc, c'est l'invité. La Voix et Livre, c'est parti. Premier chapitre. C'était en octobre dernier, nous recevions Jean-Baptiste Andréa dans l'émission pour Veiller sur elle, son nouveau roman aux éditions de l'Iconoclaste. Très beau roman, vous l'avez peut-être lu depuis, puisqu'entre-temps, il a obtenu le prix Goncourt. Et je me suis dit qu'on allait réécouter cette séquence, mais avec le recul. Veiller sur elle, c'est le nouveau roman de Jean-Baptiste Andréa aux éditions de l'Iconoclaste. Ça commence dans un monastère. Un homme va mourir, il a 82 ans, nous sommes en 1986. Il est veillé par un cercle de frères. Étonnamment, il est là depuis 40 ans, apprend-on. Il n'a jamais prononcé de vœux et à chaque fois que la question de sa présence incongrue s'est posée, une huile de l'église en robe pourpre est arrivée et a tranché, il reste. Pourquoi ? C'est un défroqué peut-être ou un criminel ou il détient un secret, on va bientôt savoir. C'est son histoire qui nous est racontée. Quand je dis bientôt, il y a 600 pages, hein. On en sait tout de suite, en tout cas une partie, puisque les frères rassemblés savent qu'il est là pour veiller sur elle. Elle, la statue. Cet homme est un sculpteur et il a sculpté une statue tellement troublante qu'elle est cachée dans ce monastère par le Vatican. Bonjour Jean-Baptiste Andréa.
Bonjour Nicolas.
Moi je sais, mais je peux rien dire. Je sais ce qu'elle a, cette statue. Et je vous le disais juste avant d'allumer les micros, on se fait avoir, quoi. Pourtant, j'ai l'habitude de lire des romans avec les fins dans ce sens-là, dans ce sens-ci. Et que, là, je me suis fait vraiment avoir. Est-ce que, c'est une question rituelle, mais qui m'intéresse toujours, est-ce que vous connaissiez la fin ?
Oui, pour moi, une idée, c'est une fin. C'est-à-dire que tous mes romans, je les ai commencés par la fin, par la destination. Et après, je les ai déconstruits pour comprendre comment y arriver. Mais c'est très important pour moi, quand j'écris la première ligne de mon roman, d'avoir non seulement la fin, mais les piliers essentiels de l'histoire. Condition idéale pour bien doser.
En tout cas, le mourant dit violon, violon, violon. Un musicien peut-être, se dit un frère. Mais en fait, il ne dit pas violon, il dit viola.
Absolument.
Viola, c'est une femme qu'il a aimée. On va y venir. C'est le mourant pour l'instant qui parle, qui pense plutôt, qui se remémore en fait. Il Francese, c'est comme ça qu'on l'appelait. Et vous parlez justement de ses racines. Alors, ça se passe en Italie, mais il est français sur le papier. Et on l'appelle il Francese. Mais il n'aime pas trop ça.
Non, il n'aime pas trop ça parce qu'il se sent très italien. C'est peut-être une projection de mes propres frustrations. Alors moi, je suis pas très italien. Je suis un tout petit peu italien par ma grand-mère. Mais je suis très frustré de pas avoir eu plus de connexion avec mon histoire italienne puisque les Italiens qui arrivaient en France faisaient tout pour faire oublier qu'ils étaient italiens. Et donc, voilà, Mimo, c'est un peu l'inverse. Lui, il est arrivé en Italie petit. Il y retourne et il veut absolument, il est très, très fier d'être italien. Il veut faire oublier qu'il est français, lui.
Nous pensions italien, c'est-à-dire à coup de superlatif, où la mort était souvent invoquée, les larmes abondantes, les mains rarement au repos. On maudissait comme on passait le sel. Notre famille était un cirque et nous en étions fiers. Ça, c'est la figure de l'italien en France, en fait.
Oui, alors moi, je me suis aperçu que je parlais beaucoup. En plus, ça se voit pas à la radio. Mais avec les mains, quand je me regarde en interview, je me dis, mais arrête de bouger autant les mains. Donc, c'est peut-être, ça, c'est un peu un cliché d'Italie, mais c'est vrai que c'est une langue très musicale. C'est un pays d'extrême dans tous les sens et c'est ce que j'essayais de capturer dans cette petite phrase. C'est un pays de théâtre et d'opéra.
On revient au début de sa vie puisqu'il se remémore sa vie et on apprend qu'il s'appelle Michelangelo Vitaliani. Michelangelo comme l'immense artiste, c'est quand même lourd à porter.
Voilà, c'est exactement
ça. Et donc on l'appelle Mimo.
Voilà, on l'appelle Mimo. Mais en fait, je l'ai. Pour moi, il s'appelle Mimo tout de suite. Puis après, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il y a derrière Mimo? C'est pas un vrai nom. Et ça m'est venu et je me suis dit, quel prénom dur à porter? C'est comme si je m'appelais Alexandre Dumas Andrea, quoi. Ça serait un petit peu compliqué à vivre. Donc, Mimo a cette comparaison terrible, permanente, qui lui pèse sur la tête. Ça fait partie des nombreux obstacles qu'il devra franchir.
Avec la question du maître, justement, qui est importante aussi. On y reviendra tout à l'heure, faudra m'y faire penser. Pour l'instant, il est enfant. On est au début du 20e, en fait. On est dans les années 1916.
Voilà.
Donc, au milieu de la guerre, en fait, c'est important.
C'est ça.
Et puis, il part en Italie parce que sa mère peut pas faire en sorte qu'il accomplisse sa destinée, selon elle. Et donc, elle le renvoie en Italie pour qu'il devienne sculpteur. Ça tombe bien, il a un oncle qui s'appelle Alberto, qui est sculpteur et qui peut-être pourrait le prendre comme apprenti. Donc, elle lui envoie une lettre à Alberto qui dit « bon, ok ». Et puis, elle envoie le gamin. Et quand je dis son oncle, en fait, c'est pas vraiment, vraiment son oncle. Et puis surtout, quand il arrive, il est pas du tout sympa. C'est même un enfoiré, dit-il.
Voilà, alors moi, Alberto, c'est vrai que c'est un enfoiré. En même temps, j'ai toujours beaucoup de tendresse pour les enfoirés, les gens qui ont même les méchants de mes livres, j'ai toujours beaucoup de tendresse pour eux, parce que je me dis, ils sont pas nés comme ça, ces gens-là. Donc quand on est un enfoiré, il y a quelque chose de très touchant. Je dis pas que j'approuve leur sale côté, mais c'est toujours des personnages touchants pour moi, parce qu'on n'est pas comme ça. Donc je me dis, je les traite avec beaucoup de tendresse, paradoxalement, même si effectivement enfoiré est bien choisi.
Parce que lui, c'est pas le plus tendre, même si c'est pas un monstre non plus. Voilà. Mais c'est pas le plus tendre. Veillez sur elle. C'est dans Veillez sur elle, ce roman de Jean-Baptiste Andrea. Vous êtes toujours avec nous sur Europe 1, mais surtout en Italie, et on se dirige vers la maison des Orsini, puisque donc notre cher Mimo, qui est un petit pour l'instant, il a 12-13 ans, un piccolo, comme on l'appelle, il n'aime pas trop qu'on lui dise piccolo, hein. Mon petit, il n'aime pas trop ça. Voilà, c'est un gamin qui accompagne donc son oncle sculpteur et qui a un gros contrat et qui se rapproche des grandes familles comme ça, parce que c'est évidemment les églises et les grandes familles qui demandent des statues quand même. Voilà, c'est pas non plus tous les jours. Et il va tomber littéralement. Et j'utilise littéralement. Exprès,
tout à fait.
Dans la maison des Orsini, qui est une grande famille italienne. Pourquoi vous avez choisi les Orsini ?
Il y a une histoire de conquête d'un énorme fossé social entre ces deux héros, puisque lui est effectivement un gamin sans perspective, sans argent et sans ampleur au début du livre, et elle, c'est exactement l'opposé. Et c'est la fille de la plus grande famille de la région, qui est aussi une des plus grandes familles d'Italie. Ils habitent cette magnifique maison sublime en bordure de la forêt dans le village, et lui, il habite une grange, il dort dans la paille. Donc il y avait un fossé supplémentaire à franchir pour eux, ce qui ajoutait au romanesque que j'ai voulu mettre dans tout ce livre.
Donc, il va rencontrer à ce moment-là Viola, et en fait, je peux rien dire, évidemment, parce que je veux surtout pas gâcher la surprise de ce roman qui pourtant en déborde, donc on pourrait s'en saisir de quelques-unes, mais bon, j'ai pas envie.
Merci, c'est
et
gentil.
En fait, au lieu de rencontrer Viola comme ça, par hasard, dans un couloir, parce qu'il passe par là et elle aussi, je me suis dit, ah d'accord, le Jean-Baptiste, il a dû se dire, comment je peux faire pour que ce soit quand même beaucoup plus romanesque? Et vous avez trouvé une solution magnifique.
Ouais, mais vous savez, dans la vie, en fait, les grandes rencontres, on se percute souvent d'une certaine façon. C'est évidemment, elles peuvent se faire dans des cas tout à fait anodins, mais je voulais qu'il y ait une rencontre un peu cocasse, un peu inhabituelle, puisque ces deux personnages n'ont rien d'inhabituel, et la vie que je leur offre, ou plutôt qu'ils m'offrent d'ailleurs, puisque j'avais l'impression de raconter une histoire qui existait, même si c'est de la fiction, est très très rocambolesque.
Et le petit sculpteur face à la magnifique aristocrate, on se dit tout de suite que ça va être compliqué pour une histoire d'amour, mais peut-être on se retrouve dans un instant pour en parler. Veillez sur elle, le nouveau roman de Jean-Baptiste Andrea. Rejoignez-nous dans un instant.
Europe 1, 19h-20h, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue, Veillez sur elle. C'est le roman de Jean-Baptiste Andrea qu'on avait reçu ici en octobre dernier et qui depuis est devenu prix Goncourt. On réécoute. Alors, c'est une histoire de sculpteur, je rappelle, c'est l'histoire de Mimo, qui est un jeune sculpteur, apprenti de son oncle, qui n'est pas vraiment son oncle, mais qui est un type un peu brutal, mais qui quand même le prend comme apprenti et sous son aile, et lui donne un gîte et le couvert. Et ils rencontrent, à l'occasion d'un chantier, Viola Orsini, qui est la fille d'une grande famille, et il y a quelque chose se passe entre eux. Ils s'aperçoivent même qu'ils sont des jumeaux cosmiques, ça veut dire qu'ils sont nés à la même date, en fait, c'est tout. C'est déjà beaucoup. Mais c'est surtout, on va en parler de l'histoire d'amour, mais c'est d'abord, mais c'est aussi un livre sur la sculpture. Moi, j'ai appris beaucoup sur la sculpture, aussi d'un point de vue métaphorique, mais il a une prédisposition aussi de ce talent-là. C'est-à-dire que la première fois qu'il voit une Pietà, il dit « non, c'est du flan, puisque les proportions ne sont pas respectées, donc j'y crois pas ».
Oui, il a un instinct exceptionnel pour son art qui est la sculpture. Et puis, je crois que, en fait, effectivement, je la traite de manière essentiellement métaphorique. C'est très bien vu. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas que je sois un connaisseur de sculpture en particulier. J'aime beaucoup de formes d'art, mais je traite la sculpture, voilà, comme flambeau dans les ténèbres, parce que ça parle beaucoup de tyrannie, la tyrannie qui est faite à ces deux héros, la tyrannie politique du fascisme qui est la toile de fond
qui
de ce livre. Voilà. Et évidemment, la sculpture et donc l'art en général sont, et les livres, sont l'un des plus belles sources de lumière pour lutter contre tout ça. Donc voilà le pourquoi de la sculpture. Et effectivement, Mimmo a ce talent extraordinaire et inné et inexplicable des grands artistes. En fait, c'est presque un autodidacte.
Inné et inexplicable. Absolument. Et sculpter, c'est construire ou c'est enlever ce qu'il y a en trop?
Alors, donc, effectivement, il y a cette réflexion-là, puisqu'il cite Michel-Ange, le vrai Buonarroti, qui disait voir, en fait, qui disait enlever les couches de marbre qui lui permettaient de révéler la forme existant déjà dans la pierre. Je crois que c'est en fait le travail de l'écriture aussi, d'enlever dans un livre. Vous disiez qu'il fait 600 pages, mais il aurait aisément pu en faire 900. Et moi, j'aime bien écrire d'une certaine façon à l'os, c'est-à-dire au plus près de l'histoire, ne pas en rajouter, en dire le moins possible. Donc en 600 pages, j'en ai en fait dit le moins possible, paradoxalement. Je crois qu'il faut savoir enlever, ouais. C'est très important. D'autant qu'on vit dans une civilisation où les gens ont beaucoup d'images en tête, beaucoup d'imaginaires, et donc ils apportent même beaucoup quand ils lisent un roman. Donc c'est pas la peine de les surcharger. J'aime aller au point de rencontre où l'esprit du lecteur ou de la lectrice, en fait, déploie le panorama que moi je leur offre.
Parce qu'il y a deux façons de voir. C'est la sculpture était déjà là et on a enlevé la pierre qu'il y avait en trop pour
exactement
qu'on puisse la voir.
Ou alors il l'a créée.
Et quand vous écrivez, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça aussi? Vous faites un rapport, vous?
Alors, j'ai cette impression un peu bizarre et j'ai entendu d'autres auteurs qui le dire, donc ça m'a un peu rassuré sur le fait que j'étais pas complètement fou, même si on me l'a parfois dit, mais j'ai l'impression d'écrire une histoire qui existe quelque part dans un petit nuage au-dessus de ma tête et de n'être qu'un médium, en fait. Et donc d'invoquer cette histoire pour la coucher sur le papier, mais presque de ne pas en être l'auteur. C'est pour ça qu'il y a des fois où on a beau tout préparer, on reste surpris par ce qu'on écrit, surpris par l'histoire, ému par nos propres personnages. Donc moi, j'ai effectivement cette drôle d'impression de révéler quelque chose qui me préexiste et d'avoir juste la chance d'être le mec qui est au bon endroit, au bon moment pour révéler cette histoire-là.
Vous êtes toujours sur Europe 1 avec Jean-Baptiste Andréa pour veiller sur elle. Et Jean-Baptiste Andréa, qui est une manière de magicien, si l'on veut aussi, magicien des mots. Et bien justement, vous avez fait aussi une allusion à la magie quand vous parlez des artistes dans le roman, ou plutôt quand un héros en parle, il dit qu'un artiste doit forcer à regarder là où le magicien le souhaite.
Voilà, ça c'est l'art du magicien. J'ai fait un peu de magie à un niveau microscopique et j'adore ça. Moi, j'adore la magie des cartes. Et effectivement, dans la magie, c'est pas tant le geste technique qui importe, même s'il doit être absolument parfait, que la mise en scène et sa présentation. Et donc, il y a quelque chose aussi de littéraire, en fait, dans la magie, parce qu'il y a une vraie création, c'est pas juste un geste technique, et c'est ce qui fait la différence, d'ailleurs, comme dans tout art, entre le virtuose qui, finalement, n'a pas grand talent, et le grand artiste qui n'est pas forcément un virtuose.
Je fais juste une mini parenthèse avant de revenir au cœur, mais il y a un personnage qui s'appelle Alinea.
Ouais.
C'est ça parce qu'en fait, il s'appelle Vittorio. Mais quand il est arrivé dans l'atelier à cause d'un contrat. Enfin bref, c'était l'alinéa 3 du contrat.
Exactement.
Qui forçait l'oncle à le prendre aussi comme apprenti. Et donc, on l'a appelé Alinéa. Je trouve ça fabuleux. Voilà, juste, je reviens sur la sculpture et sur tout ce qui tourne autour. Et il y a un moment, une très belle réflexion sur les fissures. Parce que là, on parle beaucoup de ce qu'on construit, de ce qui est beau, du sculpteur, mais il faut faire attention aux fissures aussi.
Ouais, assez bien, on n'en a jamais parlé, c'est vrai. Alors d'abord, effectivement, il y a ce qui est dangereux pour un sculpteur, c'est les fissures cachées, c'est-à-dire le sculpteur ne peut absolument pas le savoir.
Et crac.
Et d'ailleurs, Michelangelo Buonarroti, donc le vrai et grand Michelangelo, a détruit une de ses Pietà comme ça. Parce que un coup de marteau, d'un coup de massette, tape juste dans la fissure et ça fait que le bloc de marbre explose. Donc il y a ça. Et puis effectivement, je crois qu'on est défini par nos fissures. Nos fissures sont peut-être nos plus grandes qualités.
Qualité qu'on ne peut pas connaître tout de suite parce que l'enfoiré, donc, comme on l'appelle, Alberto, l'oncle, demande à Mimmo de trouver de la bonne pierre pour leur prochaine sculpture. Et Mimmo apprendra plus tard qu'il n'y a pas de bonne pierre.
Non, il n'y a pas de bonne pierre. Voilà, c'est ce que j'ai de dire tout à l'heure. C'est pas une question de virtuosité, c'est pas une question d'outils, c'est une question d'intention et d'abord et de conception, en fait, de ce qu'on veut faire. Et qu'est-ce qu'on veut raconter? Voilà. Qu'est-ce qu'on veut raconter? C'est une nouvelle fois, là, on a évidemment le parallèle avec le roman, mais qu'est-ce qu'on veut raconter en exerçant n'importe quelle forme d'art, n'importe quel métier artistique? Là est l'essentiel, pas dans la vitesse à laquelle on joue d'un instrument ou la finesse du coup de pinceau ou la rareté des mots qu'on emploie.
Qui compte, c'est l'intention, le sentiment et la douleur, en particulier quand on veut sculpter une Pietà, par exemple, c'est-à-dire Marie qui pleure.
Son fils descendu de croix.
Voilà, et puis, bref, je veux pas en dire trop parce qu'il faut qu'on vienne à ce secret et aussi à l'histoire d'amour. On a du pain sur la planche, Jean-Baptiste Andréa, on se retrouve dans un instant.
À tout de suite.
La voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre avec Jean-Baptiste Andréa qui publie aux éditions de l'Iconoclaste son nouveau roman qui fait encore un carton, Veillez sur elle. Mais Jean-Baptiste Andréa d'ailleurs, c'est vrai que vous avez quand même beaucoup de chance comme romancier, enfin chance et talent surtout, mais à chaque fois vous avez été reconnu pour votre talent, quasiment pour tous vos livres je pense.
Oui, non mais je revendique le mot chance en fait, parce que moi j'ai voulu être gamin écrivain et c'est le grand combat de ma vie de devenir écrivain contre un monde entier qui finalement, une fois qu'on est devenu écrivain, a tendance à respecter ce choix, mais avant, a tendance à douter et à le critiquer. Et donc, ça a été vraiment pour plein de raisons, un long combat. Et je mesure, pour moi, la grande chance, c'est aujourd'hui de pouvoir publier, d'être lu. En plus, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir, de trouver un lectorat et une forme de reconnaissance. Et moi, je me réveille tous les matins en me demandant, en fait, si soit je suis mort. Et je ne le sais pas encore et je suis au paradis. Soit j'ai été très gentil dans une vie précédente, dans les deux cas c'est un peu la même chose, j'espère que je suis vivant. Mais non, c'est vraiment une joie de tous les instants, je vis mon rêve moi.
Je suis vivant et vous êtes mort, c'est Philippe Cadic dans Ubique qui dit ça.
Ah, joli.
On revient au roman justement qui est aussi une histoire d'amour. Une histoire d'amour, je ne sais pas d'ailleurs, vous allez me dire, c'est ma question. C'est donc, je rappelle, Mimo qui est un sculpteur, qui rencontre Viola, ils sont jeunes, ils s'entendent tout de suite très bien. En tout cas, coup de foudre au moins amical. Enfin d'ailleurs, la première rencontre, ça se passe dans un cimetière, c'est un peu particulier, mais bon, je ne reviens pas sur là-dessus. Coup de foudre amical ou amoureux, je sais pas, mais en tout cas c'est impossible. Elle, c'est la fille d'une grande famille, lui c'est un petit sculpteur, même si on est quand même déjà au XXe siècle, c'est quand même ça va peut-être pas trop le faire. En plus lui, je peux pas trop en dire, mais il a une particularité qui fait que ça complique encore un peu plus les choses.
Ouais.
On sait dès le début que ça va être très compliqué si c'est une histoire d'amour. Est-ce qu'on peut qualifier ça quand même d'histoire d'amour, même quand c'est impossible?
Oui, alors moi je dirais même pas qu'elle est impossible. J'ai plusieurs coups de foudre dans ma vie, mon épouse, mais mes amis aussi, les que je compte sur les doigts de demain. Je crois que l'amour est amitié, l'amitié est amour, et donc évidemment c'est pas une histoire traditionnelle façon Roméo et Juliette, mais il y a quand même ce que je disais tout à l'heure, des fossés à franchir, et je crois que ces fossés sont franchis à plusieurs moments dans le livre. Parfois ils tombent tous les deux dedans, ou alors l'un ou l'autre tombe dedans, mais en tout cas je dirais pas qu'elle est impossible. Au contraire, je dirais même qu'il y a résolution à plusieurs moments, même si c'est pas exactement
complémentarité évidente.
Voilà, et puis c'est pas traditionnel. C'est sûr, je voulais pas faire juste une histoire d'amour banale. Voilà.
C'est une histoire de femme aussi, femme puissante et habile.
Bien sûr, c'est surtout une histoire de femme. Viola, c'est la première vision que j'ai eue de ce livre avec le mystère de cette Pietà dont on parle. C'est un roman qui célèbre une femme forte, une femme géniale et qui s'inspire un peu de beaucoup des femmes qui m'ont entouré.
Chers auditeurs, faites-moi confiance, vous me connaissez, lisez ce roman. Pour cette question de la belle histoire d'amour, pour la question de la sculpture qu'on a évoquée, mais je sais que c'est ce que vous préférez quand même, c'est ce mystère, ce secret qui dure pendant les presque 600 pages, à peine, parce qu'on le sait quand même avant la toute fin, mais je vous rappelle que c'est un mourant qui nous raconte son histoire à lui. Il a 82 ans quand on le rencontre, et on sait qu'il est dans un monastère et qu'il veille sur une statue qui est cachée. Elle est pas, on peut pas, c'est pas interdit de la voir, mais il faut demander une autorisation spéciale du Vatican. C'est un peu compliqué pour pouvoir regarder cette statue. Et on sait pourquoi uniquement à la fin. Mais moi, je voulais vous demander, Jean-Baptiste Andréa, évidemment, pas de nous dire ce qui se passe réellement, mais comment vous gardez ce secret pendant les 500 pages, 550 pages à peu près, et comment vous l'avez construit? Et est-ce qu'il a changé au cours de l'écriture?
Non, alors ça, c'est la toute... En fait, j'ai eu la vision de ce mystère, de cette œuvre extraordinaire qui trouble tant les gens qui la voient. Ça m'est apparu assez brutalement par association d'idées en regardant un film de Paolo Sorrentino qui n'avait absolument rien à voir avec ce que moi je raconte, mais c'est un réalisateur qui tire tellement de beauté de ses images que ça m'a déclenché quelque chose. J'ai eu cette vision et je me suis dit, ok, comment j'en arrive là? Donc j'ai passé 10 longs mois à construire cette histoire. J'ai eu des gros moments de doute parce que je me suis dit, ok, finalement, est-ce que ce mystère va perdurer pendant tout le roman? Est-ce que les gens vont comprendre, pas comprendre? Et est-ce que c'est important au fond? Et puis, en fait, ça l'est. On peut tout à fait apprécier le roman sans le mystère, mais évidemment, ça lui apporte une dimension supérieure. Voilà, mais ça a été là dès le départ. Et je dirais même que j'ai écrit tout le livre pour arriver à cette scène-là et à ces dernières lignes.
Et là, je sais que les auditeurs... Il y a certains qui commencent à se dire « Non, mais moi, je sais, ça doit être ci ou ça doit être ça. » Eh ben non, je peux vous le dire, c'est pas ça. C'est autre chose. Et en revanche, ce que je peux dire quand même, c'est que cette statue, donc c'est lui qui l'a sculptée, ça on peut le dire, il l'a sculptée dans une forme d'urgence.
Ouais.
Et ce sera son chef-d'œuvre. Alors que d'autres statues, il a peut-être plus de temps, pris plus son temps, justement, à la sculpter. Là, il y va tout de suite, c'est urgent, s'endormir, etc. Est-ce que ça compte aussi dans la manière de créer? Parce que c'est là qu'il devient un maître.
Oui, alors dans son cas, oui. Je ne crois pas que ce soit l'urgence, soit la condition de la création. C'est mon premier roman, par exemple, avait été écrit dans l'urgence. Et celui-là, c'est exactement l'opposé. Mais il y a un moment et une façon de faire pour tout roman. L'ampleur de celui-là forçait à la réflexion et excluait l'urgence. C'est un roman où je prends mon temps. C'est un roman qui monte en puissance. C'est un roman qui commence doucement. On peut ne pas tout comprendre sur les premiers chapitres, où est-on, qui est quoi. Mais en fait, je vous garantis qu'après quelques chapitres ou même 100 pages, tout se met en place et le roman monte en puissance. Donc, ce n'était pas un roman de l'urgence, celui-là. Ce n'est pas pour moi une condition de la création.
La condition de la création aussi, c'est d'avoir appris et peut-être éventuellement de transmettre ensuite.
Exactement.
C'est la question du maître. À un moment, quand il termine une statue, celle-là ou une autre, quelqu'un dit « maintenant, il faut l'appeler maître
ouais. ».
Qu'est-ce que ça veut dire?
Je crois qu'il y a un moment dans sa vie où on se dit « Ah ça y est, je commence à être en possession de mon outil de création ». Et moi, ça m'est arrivé en fait quand j'ai commencé à écrire des romans après avoir passé 20 ans dans le cinéma et j'avais pourtant passé des très belles années. Bon, le cinéma, c'est de haut et des bas, mais j'ai un peu vécu le rêve américain. Je suis parti à 30 ans faire mon premier film aux États-Unis et au bout de 20 ans, je me suis dit « j'ai envie d'autre chose, je ne suis pas complet en fait, j'arrive pas à exprimer à 100% dans le cinéma ce que je veux exprimer. J'ai écrit mon premier roman et là j'ai eu cette sensation et évidemment avec chaque roman elle s'affirme, mais particulièrement avec ce roman je me suis dit je demande pas qu'on m'appelle maître, hein, rassurez-vous, j'ai pas un ego aussi démesuré, puis je crois que j'ai toujours beaucoup à apprendre, mais en tout cas je me suis dit ok, maintenant j'ai la sensation de maîtriser mes outils et donc je vais lâcher les chevaux. C'est pour ça que ce roman est beaucoup plus ample et romanesque que ceux que j'ai écrits avant, que j'aime beaucoup d'ailleurs, hein, c'est autre chose.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Andréa. Dans un instant sur Europe 1, nous partons chez Nicole Garcia, la comédienne et cinéaste, pour visiter sa bibliothèque.
19h-20h, la voix est libre.
Nicolas Caro.
Nicole Garcia, comédienne bien sûr dans Mon oncle d'Amérique, dans La question, une adaptation de livre, mais aussi réalisatrice de L'adversaire par exemple, le livre aussi d'Emmanuel Carrère, et puis en ce moment elle joue au théâtre de Paris, dans Royan, la professeure de français, l'histoire de Gabriel. Elle est prof, donc elle est dans le hall de son immeuble et elle n'ose pas monter puisque là-haut sur le palier l'attendent les parents de Daniela, une ado qui a mis fin à ses jours. Et voilà Gabrielle qui se parle à elle-même et se pose des questions sur tout. Un monologue écrit, tiens, par Marine Diaye, prix Goncourt, elle aussi, ça fait quand même beaucoup de littérature tout ça, tellement qu'il a fallu absolument que j'aille visiter sa bibliothèque. Bonjour Nicole Garcia.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous. Je vous ai demandé en arrivant où est la bibliothèque, parce que je voyais qu'une bibliothèque de beaux livres dans votre salon. Et vous m'avez dit, j'ai d'abord un truc à vous lire. Je jure que je ne sais pas du tout ce que vous allez nous lire. Et où est la bibliothèque?
Oui, mais comme je joue au théâtre tous les soirs en ce moment, donc j'ai préparé en me disant, mais pourquoi est-ce que j'ai fait venir Nicolas devant ma bibliothèque, un petit texte, que je dis plutôt que je lis, mais... pour dire que j'ai pas de bibliothèque chez moi, pas vraiment. Enfin, j'ai des livres, hein. J'ai beaucoup de livres. Mais j'ai pas de meubles de bibliothèque, puisque depuis 3 ans que j'ai emménagé ici, je me suis pas encore décidée à acheter ou à faire installer, tellement j'ai un rêve de bibliothèque que j'arrive pas à réaliser, donc une grande bibliothèque. Donc, les livres, pour que les livres soient visibles et à portée de main, comme ça se fait dans les belles et bonnes bibliothèques. Mais, alors je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que je devrais quand même, je suis installée ici, je devrais quand même avoir ça, mais bon, peut-être que je suis un peu nomade et que je cherche déjà un autre lieu, un autre appartement. Mais bon, alors, après l'emménagement, quand j'ai emménagé, j'ai sorti les livres des cartons, voilà, et je les ai stockés dans des grands placards que je vais ouvrir maintenant, en attendant d'être mieux rangés. Mais
attendez,
on les a sommairement rassemblés par grandes catégories. Alors, sur les étagères à hauteur d'homme, il y a le théâtre, la poésie, la philosophie, la psychanalyse.
C'est extraordinaire, en fait, votre texte. Moi, je m'attendais à ce que vous me lisiez un texte que vous aviez écrit il y a longtemps, ou d'un grand auteur, comme ça. Non, vous avez préparé l'explication de l'absence de bibliothèque visible.
Oui, oui.
Incroyable.
Ouais.
Mais donc, on les ouvre, ces placards, alors?
Ouvrez celui-là.
Allez.
C'est là qu'il y a tout ce qui est livre plus ancien.
Ah bah voilà.
Voilà.
Ah d'accord. Bon, voilà. Bah c'est un immense. Alors je décris quand même, c'est des placards un peu de salle à manger, c'est-à-dire qu'on pourrait y trouver des verres ou des assiettes, de la vaisselle.
Ouais.
Et en fait, c'est rempli de livres. Là, c'est à peu près, là, vu de nez, il y a 800 livres.
À peu près, oui, sûrement, oui. Plus même.
Et il y a d'autres livres dans les placards ou c'est que ce placard?
Les romans grand format par éditeur, par livre, et des formats poche, après, vous voyez, sur plusieurs rangées.
D'accord.
Alors, vous continuez à ouvrir. Évidemment, tout ça n'est pas très accessible.
Ah oui, c'est dans tous les placards.
C'est recensé bien que je n'ai pas vraiment ce que j'ai. Quoi. Et il m'est arrivé maintenant, comme ce n'est pas très rangé, il m'est arrivé de racheter des livres parce que je ne trouvais pas le livre.
Eh oui.
Et que pourtant, je sais que j'ai.
C'est un classique.
Donc dans les placards, il y a les livres d'avant, les voix d'avant, qui se sont temporairement tues, mais qui résonnent en moi. Et maintenant, les livres de maintenant, ce que j'ai lu le plus récemment, je vais vous en emmener, vous avez ce grand privilège, dans ma chambre.
Merci.
Pour voir, voilà. Et là, il se trouve empilé en désordre dans ma chambre ou dans le bureau, à portée de main et à portée de regard, contrairement à cela. Voilà. Mais allons dans ma chambre.
Là, il faut qu'on revienne ici, parce qu'il y en a beaucoup. Hein.
Oui, il y en a beaucoup. Je lis beaucoup.
Il y a du pain sur la planche.
J'ai surtout lu beaucoup. Beaucoup plus que maintenant. J'étais vraiment une dévoreuse de livres pendant très longtemps.
Et qu'est-ce qui s'est passé, vous savez ou pas?
Je ne sais pas. C'est ce qu'on appelle quand on est en grande activité. Maintenant, je lis, par exemple, je dis toujours que j'adore prendre des trains pour lire. Je pourrais faire des Paris-Nice aller-retour sans arrêt pour pouvoir lire. Sinon, on est roulé par la vague. Et voilà, comme en ce moment, je suis comme au théâtre pour jouer donc cette pièce de Marine Diaye. Royon, la professeure de français. Et donc, toute la journée, je me prépare à cette pièce, je ne fais que ça. Et la lecture ne fait pas partie d'une détente. Quoi. Quand on lit, il y a quelque chose qui est... Là aussi, c'est comme le théâtre. Quoi. Il y a une sorte de plongée dans un livre et on ne peut pas plonger deux fois dans la même journée.
Alors là, il faut que j'explique, Nicole Garcia. On a donc, c'est immense hein, quand même. On est dans votre chambre.
Oui.
Immense privilège. Vous avez une table de chevet avec 4-5 livres. Et
oui.
Puis, vous avez une colline de livres par terre qui s'est effondrée.
Qui s'est effondrée hier soir, encore une fois pour vous. Hein. J'ai commencé.
D'accord.
C'était cette bibliothèque, donc je ne sais pas si un jour elle sera vraiment une bibliothèque comme cette
étagère. Une bibliothèque Ikea, quoi.
En devenir, oui. En devenir. Peut-être elle s'arrêtera là. Oui, voilà. Elle n'est pas encore prête.
C'est génial.
Oui.
Alors, attendez, il faut que je fasse le tri. On a Patrick Modiano que je vois immédiatement. Borges derrière avec Fiction. Modiano, c'est la danseuse. C'est un de ses tout derniers, si ce n'est pas le dernier. Il y a un Henry James qui traîne là-bas. Madame Nemauve, pas très connue.
Mais ce que vous ne voyez pas non plus, j'ai beaucoup de. Donc, puisque je joue Marine Diaye au théâtre. Donc, j'ai beaucoup de Marine Diaye, Rosie Carpe, pour qu'elle ait une Fémina, ton femme puissante. J'ai beaucoup de livre de Yasmina Reza, si Babylone, vous voyez Serge là.
Attendez, parce que là, je vais évacuer tout de suite un sujet.
Et voilà.
Je
Emmanuel
vois
Carrère.
Chez POL Emmanuel Carrère. Alors c'est le royaume,
oui.
Mais je rappelle que vous avez adapté L'adversaire. Ce qui est pour moi le plus grand livre d'Emmanuel Carrère, même si tout le monde n'est pas d'accord, voilà. C'est L'adversaire. Ah, qui est là, d'accord. Voilà, okay.
Ouais. C'est un récit extraordinaire qui m'avait...
T.O.L. qui a bien vécu, qui a bien été lu, souligné. Oui. Ah, vous soulignez des phrases au crayon de couleur bleue.
Dans l'adaptation, oui. Au moment où on l'a adapté, on souligne, ce qu'on garde, les choses les plus précieuses du livre. Ouais.
Qu'est-ce qui se passe quand vous lisez un roman et que vous vous dites ça, c'est un film ?
Oui, ça m'est arrivé deux fois. Une fois d'abord pour Emmanuel, L'adversaire, et après pour un livre de Milena Agus, Mal de pierre, que j'ai fait avec Marion Cotillard.
Là, qu'est-ce qui se déclenche ?
Tout d'un coup, on dit, il y a quelque chose pour moi. Alors, vous ne me dites pas qu'est-ce qu'il y a de moi dans cette histoire si sombre qu'est L'adversaire, mais oui, quelque chose sur le vertige, sur le mensonge, sur l'enfermement d'un être dans le secret. Et quelque chose, et Milena Agus, c'était Mal de pierre, c'était une femme comme ça qui disait qu'elle mettait la chose principale au-dessus de tout, et c'était se retrouver avec un amour, quoi. Le partage, l'échange sensuel avec un homme, et on lit, on se dit c'est pour moi, quoi, c'est quelque chose pour moi, c'est pas la peine que je me mette à vouloir écrire absolument un scénario original qui demande tellement de temps et d'énergie, alors que là il y a un auteur à écrire. Enfin, on se raconte que c'est pour moi. Quoi.
L'adversaire, je rappelle, c'est l'histoire de Jean-Claude Roman qui se faisait passer pour un médecin pour sa famille et ses proches. Et en fait, il passait son temps à glander toute la journée parce qu'il n'avait jamais réussi à devenir médecin finalement. Et il n'a pas su accepter ce mensonge et il s'est enfermé dans une spirale de mensonges. Et puis, il a dû voler de l'argent à sa famille pour pouvoir donner le change.
Il n'a jamais voulu faire tomber ce masque, et plutôt que ça, il a préféré tuer les gens qui devant lesquels il ne voulait pas se démasquer, justement.
Oui. Et ça, c'était pas le fait d'être en soi qui vous intéressait, c'était la manière dont le raconte Emmanuel Carrère, plutôt.
Ah oui, parce qu'effectivement, vous avez raison, quand j'avais connu le fait divers, comme toute la France, j'avais trouvé ça, c'était vertigineux, mais j'avais pas... C'est le livre d'Emmanuel, parce qu'Emmanuel faisait de ce personnage, il sortait du terreau du fait divers, et il en faisait un personnage tragique. Qu'il est, que Jean-Claude Roman est, enfin, qu'il était, qu'il devenait dans ce livre d'Emmanuel. Et puis alors, donc, j'ai découvert aussi un auteur connu. Voilà, c'est Richard Yates. Donc,
Un été à Cold Spring.
Oui, c'est ça, mais c'est peut-être pas son meilleur. Le meilleur, je le recommande à tout le monde. C'est un petit livre de nouvelles qui s'appelle 11 histoires de solitude. Alors, c'est un livre qui m'a bouleversé, dont deux nouvelles en particulier m'ont absolument bouleversé, et aussi un autre livre que je trouve pas, celui-là de Richard Yates, qui est plus récent, Jeune cœur éprouvé.
Mm-hmm. Yates, c'est Yates. Vous nous racontez des nouvelles sur la solitude qui vous a bouleversé ?
J'aimerais bien. Où est le livre ? Il y en a un que je crois qui s'appelle Le saxophone. Le saxophone, ça se passe étrangement dans le milieu de la France, à Cannes, justement. Et c'est deux garçons qui viennent des États-Unis, qui font des études. Un est un grand bourgeois, l'autre moins. Donc un va retourner chez son père pour reprendre l'entreprise du père. L'autre est là. Et on parle raconter, parce qu'il y a une sorte d'humiliation. Je suis assez sensible à ces thèmes-là. Et il y a un mec qui joue dans une boîte à Cannes du saxophone et qui attend avec impatience qu'un gros magnat américain du show business vienne le remarquer et le fasse partir et démarrer une carrière. Et il va être humilié par ces deux garçons de manière terrible. Et c'est éblouissant. C'est éblouissant, c'est terrible. J'allais me balader après avoir lu ça parce qu'il faut un grand moment pour le savourer et en même temps pour en sortir de cette histoire.
Qu'est-ce qu'ils ont, les Américains ?
Mais oui.
Comment ils font ? Qu'est-ce qu'ils ont, à votre avis ? Vous avez résolu ça ?
Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous ?
Différent. Enfin, ils ont quand même, c'est vrai, c'est cette ampleur souvent, beaucoup de romans incroyables.
Américains, oui, c'est vrai. Depuis longtemps. Hemingway, longtemps, et avant même. Je sais pas, il y a une.
Vous posez ce genre de questions ? Ou alors vous prenez ce qui vient et peu importe ? Est-ce que vous regardez les mouvements comme ça, artistiques, en vous disant ça c'est comme ci, ça c'est comme ça, ou vous prenez chaque histoire?
Je ne sais pas, peut-être il faudrait peut-être poser ces questions à mes amis, Emmanuel Carrère, tout ça, pour pour qu'il dise quelque chose de ses analyses de comparatives sur les littératures. Moi, je peux davantage vous parler peut-être de cinéma ou de théâtre, mais peut-être moins dans... après, non, mais les livres qui m'ont plu, c'est ça que je voulais vous dire, parce que... Et bon, c'est pas très original, mais Triste Tigre m'a vraiment... Ah, j'ai perdu mon micro. Non.
je vous ai tendu le mien.
J'ai Triste Tigre qui m'avait adoré. J'ai le livre de Laure Murat aussi, Proust, roman familial. Ah, oui. J'ai essayé de...
Puis, vous avez listé, c'est sympa.
Qui m'ont aimé, qui m'ont beaucoup suivi.
Mais oui, il y a Freud qui est là avec Deuil et Mélancolie.
Oui. Et puis il y a un livre aussi, j'avais un oncle par alliance qui était un grand prof de philo, qui s'appelait Ferdinand Alquier. Et j'ai fait de la philo quelques temps. Maintenant, je ne comprends beaucoup moins les livres que je comprenais très bien.
C'est une langue étrangère. Hein, voilà. Il faut, quand on arrête, on perd un peu.
Voilà, maintenant. Mais il y avait des leçons sur Spinoza et longtemps. Comme une phrase. Longtemps, j'ai beaucoup aimé Spinoza.
Maintenant, ça sera le début des mémoires.
J'aurais du mal à...
François Bégodeau, l'amour. Ah, je vous vois bien... Alors, on ne va pas chercher ça à chaque fois, mais je vous vois bien l'adapter quand même. C'est vraiment la vie normale d'un couple pendant 50 ans. Inès, c'est en Vendée, à côté. Ils ont un gamin, c'est tout. Un abonnement à Ciel et Espace, ça va. Et parfois, ça va un peu moins bien, mais ça va. Et puis à la fin, il meurt et basta. Et on a vécu toute une vie incroyable, sublimée, comme ça, où il se passe pas grand chose, mais il se passe tout.
Mais oui, c'est ça. Une vie avec
François Bégodeau, l'amour.
Avec tout ce qu'il y a de sublime et de banal en même temps dans les vies de chacun.
Et en même temps, à filmer, c'est pas facile, ça. Autant dans un roman.
Non. Il n'y a pas beaucoup de fiction, il n'y a pas beaucoup les arrêtes de la fiction, il n'y a pas beaucoup de récits. Enfin, le récit est quelque chose de. C'est ça, par exemple, que si on faisait une comparaison avec les Américains, ont quelque chose qui. Quelqu'un va me porter une contradiction là-dessus. Mais il me semble qu'il y a tout le temps dans le récit quelque chose de contradictoire, de riche, de qui se. Alors qu'en France, la littérature française, il y a plus. Enfin, elle est extraordinaire, la littérature française. Hein, elle est très diverse. C'est pour ça que je ne pourrais pas faire de généralité et vous dire plus ça que ça. Mais par exemple, vous voyez ce livre de Richard Yates, j'y reviens, Jeune cœur éprouvé, il faudrait, pour le lire, parce qu'il est un gros livre, qui fait 700 pages, donc il faudrait. Il faut bien un aller-retour Paris-Nice.
Oui. Ouais. Une petite semaine à vitesse de lecture normale, quand même.
Voilà, oui.
Mais le temps, c'est extrêmement important, d'ailleurs. Parce que j'ai vu que sur Netflix, je crois qu'ils ont arrêté, mais ils avaient proposé une option pour regarder les films avec une vitesse légèrement accélérée pour que ça aille plus vite.
C'est incroyable.
Terrible, ça.
Ah oui, horrible. Horrible. Pour mettre en scène.
Et vous, quand est-ce que vous prenez le temps de lire ?
Dans des trains que je ne prends pas, justement. Mais sinon... Longtemps, j'ai lu beaucoup. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Longtemps, j'ai lu énormément.
Et lu Spinoza, beaucoup.
Mais je lis... dans les moments, d'ailleurs, je m'inquiète de moi quand je ne lis pas assez. Je m'inquiète. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui s'emballe, ou qui ne trouve pas le temps de... Parce qu'on regarde beaucoup d'images. Mais c'est être passif que de regarder des images. Lire, il faut déclencher quand même une volonté, quelque chose de l'ordre de... Oui, il faut commencer par un effort, mais tellement largement récompensé. Donc je m'inquiète quand je ne lis pas, mais je lis le soir, souvent, ou... j'allais dire dans les transports, quand on prend des transports, ou... souvent, je lisais comme ça, je me souviens, dans les voitures, je conduisais une voiture, je lisais dans la voiture, j'attendais que les klaxons me fassent redémarrer pour arrêter.
Dans la voiture, au volant ?
Au volant, vous vous rendez compte ?
Pendant les feux rouges, quoi ?
Oui, pendant les feux rouges, tac, je m'arrêtais, tac, tellement la lecture me menait, quoi, tellement j'étais...
Vous n'êtes jamais fait arrêter ?
Connecté, non. C'est ce que les gens font maintenant avec les portables. Moi, je le faisais avec des livres.
Vous aimez, alors là, c'est un monologue, c'est pas pareil, d'une heure vingt, et puis c'est une histoire complète d'une certaine manière. Mais est-ce que vous faites souvent comme ça des lectures de romans, des extraits ? Vous aimez ça ?
Ça arrive, j'adore. Je ne peux pas dire que c'est une chose que je préfère, mais je pourrais le dire même si parce que j'aime beaucoup aussi être cinéaste, j'aime beaucoup jouer au théâtre, mais lire, lire en ayant travaillé avant la lecture, me jeter dans une lecture, j'ai lu comme ça des textes de Tanguy Viel que j'aime beaucoup.
L'édition de Minuit.
Oui. Dites-moi le titre de l'œuvre, l'article 353
du code pénal.
Oui.
Mais...
Superbe. C'est un très beau livre.
C'est peut-être pas 353 d'ailleurs, mais bon,
non,
on a compris.
Bon, c'est l'article 300 et quelques du code pénal. D'ailleurs, c'est la phrase finit le livre. Je lis, j'ai lu Babylone de Yasmine Arisa. Heureux les heureux aussi. Heureux les heureux. Puis d'autres livres. Et j'aime beaucoup. J'ai lu aussi Ariane Chemin il n'y a pas très longtemps. J'adore lire.
C'est particulier quand même, parce que ce n'est pas souvent fait pour être lu.
Eh bien non, mais on découvre que oui. On découvre que si on respecte justement quelque chose, la prosodie de la phrase, quelque chose de la... Non, mais au-delà de ça, même au-delà d'une chose technique, mais de ce qu'est l'auteur, si c'est quelque chose de très... avec beaucoup d'émotions qui sont charriées ou quelque chose de plus froid, il faut le sentir dans la lecture et c'est un exercice formidable parce que... Voilà, puis surtout, quand on lit comme ça devant des gens, on espère que... sans faire du prosélytisme, et que ça va être qu'ils vont lire en rentrant chez eux, et que c'est formidable quand on voit les gens lire, on a l'impression tout le temps que c'est très vertueux la lecture, et je le crois que c'est vertueux.
Oui, mais moi je me dis l'inverse. Ah. Je me dis quand quelqu'un lit, je me dis bah c'est bien, c'est chouette, et parfois je me dis mais peut-être il lit un livre toxique, quoi, un livre qui lui fait pas de bien, un livre qui fait bien à personne, c'est possible aussi, non? L'acte de lire aujourd'hui est devenu tellement peut-être sacralisé ou je sais pas, qu'on a l'impression que dès lors qu'on ouvre un livre, c'est une vertu.
C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi? Parce que c'est tellement menacé. Tu vois, dans le métro, qu'on voit les gens qui sont tous sur leur iPhone. Quand tu vois des gens lire, c'est presque des... On les regarde. C'est vrai, on les regarde maintenant. Tiens, il y en a deux qui lisent contre 48 qui sont sur leur iPhone. Ça fait la différence. Mais allez donc voir ce qu'ils lisent si vous êtes inquiet pour eux. Mais en principe, lire, ça demande déjà un effort, une concentration. Ils s'isolent de la rame plus que, je crois, que les gens qui sont sur leur iPhone.
Je vais vous laisser tranquille après, mais j'ai vu quand même Borges et je ne sais pas pourquoi je me dis que vous avez un rapport particulier à Borges. Oui. Et là, vous avez Fiction, qui est son livre le plus connu, mais enfin, on pourrait tous les citer.
Oui, c'est vrai, c'est son livre le plus connu.
Choisissez dans Fiction des histoires que vous allez repiocher comme ça, ou c'est tout Borges, ou c'est l'homme, ou c'est... Bon.
Non, c'est Fiction en particulier. Et c'est vrai que Fiction, on peut l'ouvrir à n'importe quelle page et rentrer dedans, et il y a des mots qui... Voilà. En plus, là, j'ai la version espagnole et française à côté. Oui. Je ne dis pas que je parle l'espagnol couramment, mais enfin...
Vous regardez comment ça a été fait, quoi.
Voilà, oui, je regarde comment les traducteurs se sont mêlés. Voilà.
Et Borges, il vous suit depuis toujours ou vous l'avez rencontré à un moment donné?
Je l'ai rencontré à un moment donné. Je l'ai rencontré, je crois même que c'est Yasmine Arisa qui m'avait parlé de lui, parce qu'elle en était très, très fan et très... est très proche, enfin très proche de sa lecture, et donc je me suis mis à... Non, il y a des auteurs... Non, par exemple, j'ai eu à 15 ans une... J'aurais dû avoir confiance dans ma vie quand j'ai eu à 15 ans une révélation en lisant La Chartreuse de Parme. Ah. J'étais en vacances avec mes parents et dans une famille dans le Tarn, et j'ai lu La Chartreuse et c'était... Je crois que j'étais dans un état d'éblouissement. On ne pouvait pas me faire venir à table. C'était comme... Et là, j'aurais dû avoir... Je me dis, maintenant, avec tout ça, avoir confiance dans... Ouais, d'avoir cette capacité d'éblouissement, je le souhaite à beaucoup d'adolescents.
Mais vous relisez souvent La Chartreuse de Parme ?
Non, je ne l'ai pas relu depuis.
Ah,
j'ai
oui
peur de le relire.
Ah, bah oui.
J'ai peur que cet éblouissement ne se renouvelle pas.
Mais Les Misérables, non, vous pouvez.
Les Misérables, je vais tenter. Je n'ai pas dit que j'étais guidé par Guillaume Poix. J'espère... Mais je n'ai pas eu le même éblouissement. J'ai aimé cette œuvre. On avait même fait un collectif de théâtre sur Les Misérables. Donc, je l'ai travaillé. Mais je voudrais rentrer, je voudrais retrouver Jean Valjean, je voudrais retrouver Les Barricades, je voudrais retrouver Marius et Fantine et Cosette.
Les personnages qu'on aime sont des amis ?
Les personnages
qu'on aime... J'ai posé une question un peu sentencieuse,
non,
comme ça.
Si, mais c'est une belle question. on peut dire même les livres qu'on aime sont des amis, par exemple.
Les écrivains.
Je parlais de Richard Yates, les personnages de 11 histoires de solitude, c'est devenu des gens qui me sont proches, quoi. Tout ce qu'ils racontent me résonne très fort en moi. Oui. Oui.
Merci beaucoup, Nicole Garcia.
Merci.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Retour en studio à Europe 1, je rappelle, Nicole Garcia est au Théâtre de Paris en ce moment pour Royan, la professeure de français, texte de Marine Diaye. Dépêchez-vous, il n'y a plus qu'une semaine. Dans un instant, encore des livres, romans jeunesse et bandes dessinées. À tout de suite.
Europe 1, 19h-20h, La Voix est libre.
Nicolas Caro.
La Voix est libre continue avec les chroniqueurs de l'émission. Notre libraire du soir, c'est Christophe Daniel, librairie La 25e Heure, place du Général Beuret à Paris, 15e, toute petite librairie, mais magnifique. Ils sont super dans cette librairie, ils ont tout. Merci beaucoup d'être là, Christophe Daniel. Héloïse Goua, littérature jeunesse, et le camarade Bordenave, Sébastien, pour la bande dessinée. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir, Nicolas.
Et honneur au libraire, de quoi vous nous parlez, Christophe?
Alors, je vais vous parler d'un auteur israélien qui s'appelle Eshkol Nevo. Oh. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un film de Nanni Moretti, il y a quelques années, qui s'appelait Trepiani, et qui était une adaptation d'un roman d'Eshkol Nevo qui s'appelait Trois étages. Eh bien, celui qui sort ces jours-ci, c'est Turbulence. Et à nouveau, c'est trois histoires en un roman. Donc un peu la même construction que Trepiani. Et trois histoires qui se lisent comme des mini-thrillers. Trois histoires qui ont rapport avec l'amour et ses turbulences. Dans la première, on va suivre un couple d'Israéliens en lune de miel dans un pays d'Amérique du Sud. Et ça va virer au drame. Dans la seconde, c'est un médecin chef d'un hôpital de Tel Aviv qui va être très troublé par l'arrivée dans son service d'une jeune collègue et un trouble qui va l'entraîner dans une situation très inconfortable. Dans la troisième, on va trouver un couple marié depuis de longues années qui a l'habitude le samedi matin de faire une petite balade dans les vergers près de la ville. Mmh. Et tout à coup, le mari disparaît. Voilà. Ces trois histoires qui interrogent sur qu'est-ce qu'on sait vraiment des gens qu'on aime. Ces trois histoires qui donnent aussi un reflet de la société israélienne. Et puis, plus généralement, il y a l'aspect universel de ce que peut parfois occasionner les relations amoureuses et ces turbulences.
Il y a le style d'Eshkol Nevo.
Il y a le style d'Eshkol Nevo, il y a aussi beaucoup d'humour. Et voilà, c'est un magnifique livre.
Moi, c'est traduit de l'hébreu, mais je connais pas la version originale. Mais c'est vrai que c'est très très particulier comme écriture.
Oui, mais alors le travail du traducteur que je salue là, c'est Jean-Luc Alouche, est vraiment remarquable.
Merci beaucoup Christophe Daniel. Turbulence, trois histoires d'amour. Merci beaucoup Héloïse Goua.
Je vois bien Nicolas que vous attendez impatiemment les Jeux Olympiques qui arrivent à Paris le 26 juillet.
Il a futé.
Vous tenez plus en place.
J'attends le train qui m'emmènera ailleurs.
Bon, et ben en attendant, je vous propose de découvrir les Jeux Folympiques de Guillaume Guéraud et Ronan Badel. C'est le titre de cet album complètement déjanté et très très drôle. Ça m'a arraché des éclats de rire très sincères. Avec les Jeux Folympiques, on nous annonce des épreuves complètement dingues, des champions essoufflés et des perdants époustouflants. Déjà, la devise de celui qui relance ces jeux, Pierre le court battu, c'est l'important n'est pas de gagner, l'important est de bien rigoler. Déjà, ça me parle. Hein, on est loin du sport, ça me parle bien. Ensuite, sachez que ces jeux sont organisés tous les 7 ans par le comité d'improvisation olympique qui définit les règles de chaque discipline. Première règle, tout le monde a le droit de perdre, car les compétitions sont ouvertes à toutes les personnes de 3 à 103 ans. C'est-à-dire aux idiots, aux génies, aux ramolos, aux bandits, aux peureux, aux stars. Bref, Sébastien Bordenave, vous feriez un carton. Notamment dans l'épreuve d'haltérofolie, qui consiste à porter sur soi le maximum de personnes en même temps. L'avantage, c'est que seul le nombre de personnes portées compte, qu'importe le poids, la taille ou l'âge.
Une fourmi.
C'est ça, ou Bonnie, mon chien. Si vous portiez plein de Bonnie, bah, ça marcherait. Le désavantage, c'est que cette épreuve est organisée sur un plancher fraîchement savonné et parfaitement glissant.
Il y a le pastèque ball aussi que j'aime bien.
Pastèque ball, c'est très sympa.
C'est du basket, mais avec une pastèque, et bon, bah, ça a l'air d'être bien glissant.
Oui, mais en grande sportive que je suis, j'ai trouvé la discipline qui me convient à merveille. Ça s'appelle l'environ. C'est une épreuve, c'est une épreuve nautique dynamique, mais totalement incompréhensible. Ça se déroule probablement sur l'eau, en mer, quoi. À moins que ce ne soit en rivière ou au milieu d'un torrent. Mmh. Tout ce qui flotte peut éventuellement convenir. Mmh. Il faut parcourir une ligne plus ou moins droite d'environ 6 km avant de prendre un virage à bâbord ou peut-être à tribord. Bref, les vainqueurs sont ceux qui arrivent à peu près les premiers. C'est très vague, mais comme dirait le comité d'improvisation olympique, plus c'est flou, plus c'est fou. Bref, pour préparer comme il faut ou pas comme il faut vos enfants au vrai JO, je vous recommande très vivement ce livre hilarant. Je sais pas d'où l'auteur sort toutes ces idées géniales. Les illustrations de Ronan Badel sont très drôles. Vous avez vu, Nicolas, ça rappelle un peu le trait de Sampé, les illustrations. Vrai coup de cœur. Les Jeux Olympiques de Guillaume Guéraud et Ronan Badel, c'est au seuil jeunesse.
Très chouette. Merci beaucoup, Héloïse. Sébastien Bordenave, encore des dessins.
Oui, et si Frankenstein était irakien?
Bah tiens,
alors, une BD aussi folle qu'inspirée qui s'appelle Frankenstein à Bagdad. À la base, c'est un roman de Ahmed Saadawi, sorti en 2013. Gros succès, plein de prix, de la science-fiction arabe, voilà, qui est t'es pas commun. L'histoire, c'est celle de Hadi, c'est un chiffonnier, et il raconte partout que, oui, c'est lui qui est à l'origine d'une créature faite de bouts de cadavres de plein de gens, des innocents, des victimes du régime de Saddam, mais aussi des bourreaux, des mercenaires, des gens qu'on n'a pas su vraiment identifier aussi, tellement les morts sont parfois très violentes. La créature se réveille pour se venger des personnes qui ont tué tous les gens qui ont servi à faire la créature, donc c'est l'affaire du monde. On prend cette BD comme on veut, comme une enquête sur la recherche des coupables, ou comme une métaphore sur l'Irak de 2005, où le danger venait de partout et de nulle part, ou comme une grosse farce. Le résultat est quand même super drôle, grinçant, émouvant, déstabilisant. Ça ressemble un peu à du Johann Svar à ses débuts.
Oui. Ah oui,
c'est un compliment. Ça s'appelle Frankenstein à Bagdad, adaptation du roman de Antoine Ozanam et les dessins de Tony Cittadini, une BD qui va vous faire voyager.
Parfait, merci. Et vous avez un livre qui a l'air très poétique là.
Ouais, Partons dans les nuages, une BD de Personne. Personne, c'est le nom du dessinateur.
Oh, c'est signé
J. Personne, publié chez Glénat. Le titre, c'est Nuages au pluriel, car le héros de la BD se dit « Petit, un jour je volerai ». Bah oui, il adore les super-héros, donc dans sa vie, il va convoquer souvent des êtres masqués, musclés. C'est une histoire qui résumée comme ça, a l'air un peu simpliste, mais en fait, elle est extrêmement bien faite parce que ça ressemble à du manga, mais de chez nous. Et le fait de suivre comme ça la vie de Léo du début à la fin, c'est très émouvant, on s'attache forcément, d'autant qu'il est comme nous, il fait des choix de vie un peu chelous, des fois on lui en veut, des fois on lui en veut pas. C'est très très bien écrit, très très bien dessiné, que demander de plus? Nuages chez Glénat de J. Personne.
Merci Sébastien Bordenave. Héloïse, on rappelle les Jeux Olympiques
de Guillaume Guéraud et Ronan Badel au seuil jeunesse.
Et Christophe Daniel.
Turbulence d'Eshkol Nevo dans la collection du Monde Entier chez Gallimard.
Parfait. Sébastien Bordenave, une citation peut-être?
Oui, une citation d'un héros dessinée. De BD créé par Jim Davis, le chat Garfield. Il dit « Ah, quelle belle journée !» Alors on lui dit « Bah, tu te lèves pas ?» Le chat, il dit « Bah non, pourquoi la gâcher ?»
Merci à tous les trois, c'était le dernier chapitre de La Voix est libre pour cette semaine. Merci aussi bien sûr à Agnès Vaudin, Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, et Mathieu Fred, son acolyte.
Europe 1, 19h-20h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.